La foi numéro 59. Le don de foi. C'est-à-dire la capacité de s'abandonner à Dieu. La faculté de s'enlever du chemin. Le 10 janvier 2018. Révérend Brian Kozurek. Dieu nous a promis que nous recevrions, par le don de foi, la faculté de nous abandonner à la révélation de Jésus-Christ et d'abandonner notre volonté à la volonté du Père, tout comme Jésus a abandonné sa vie à la volonté du Père. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'au moyen du Saint-Esprit en eux, Dieu a donné à chaque fils de Dieu d'utiliser un don spécial qui est à donner à tous les fils de Dieu, celui de pouvoir s'enlever du chemin. C'est-à-dire ce que Jésus pouvait faire en tant que fils premier-né, étant donc le modèle de tous les fils. Et apprenant cela du fils premier-né de Dieu, et sachant que nous sommes prédestinés à être semblables à son image, alors nous devons nous aussi être comme lui. Et donc, pour ce faire, Dieu a donné à chacun de nous ce même don, celui de s'enlever du chemin. Maintenant, il se peut que vous, Néhémie, le voyez pas ainsi, mais c'est-à-dire parce que vous, Néhémie, savez pas ce qu'est ce don. Le don de s'enlever du chemin. C'est-à-dire le don du Saint-Esprit vivant en vous. Et plus vous êtes conscient de la vie de Dieu en vous, plus il est facile de vous mettre de côté et de laisser Dieu être Dieu, et de laisser son esprit prendre la prééminence dans vos pensées, dans votre discours, dans votre vie et dans vos actions, qui proviennent de votre abandon à son esprit qui vit en vous. Dans son sermon, la parole parlait Esther la semence originelle 1:62-0318 frère Branham dit, 207 Esther que la Bible doit être en vous. La parole Esther une semence. Tant qu'elle se trouve ici, elle n'aura aucun effet. Mais quand elle entre ici, quand elle entre dans le cœur, alors elle commence à manifester, par le Saint-Esprit, les œuvres de Dieu. C'est alors que viennent les visions, que vient la puissance, que vient l'humilité. Vous n'êtes plus un je sais tout, tout ça c'est terminé. Vous devenez un rien tiré du tout. Alors Christ est vivant. Vous mourrez, il vit. Voilà, c'est ça. C'est parce qu'il est mort que moi je vis. Quand je meurs, il les reprend vie. Et, quand je meurs, ce qu'il m'a promis, c'est la vie. Et je suis mort à moi-même, ce afin de pouvoir avoir sa vie à lui. Et comment y arriver? En recevant sa parole, sa semence. Enfouir sa semence ici, par la foi, et y croire. Et alors elle produit exactement ce que la Bible dit. Remarquez, la belle formulation que frère Branham utilise ici. Il dit que quand la parole de Dieu devient si prééminente dans votre cœur, et que vous êtes tellement mort à vous-même que vous n'êtes plus rien à vos yeux, alors vient l'humilité, alors vient la puissance, alors viennent les visions. Ainsi, Néhémie vous attendez pas à les avoir avant que vous Néhémie soyez d'abord mort à vous-même. Vous Néhémie pouvez même pas vous attendre à avoir l'humilité, jusqu'à ce que vous atteigniez le point où, à vos yeux, vous n'êtes rien. Toute humilité que vous avez avant de mourir à vous-même est une fausse humilité. C'est faire semblant d'être humble et s'avilir. Ainsi, la clé pour vivre la vie de Christ, c'est de d'abord mourir totalement à vous-même, et de n'être rien à vos yeux et non aux yeux des autres. Non pas mourir aux yeux des autres, mais mourir à vous-même, à vos yeux. Les pharisiens étaient des comédiens et ils faisaient croire presque à tout le monde qu'ils étaient des justes et qu'ils étaient totalement abandonnés à Dieu, mais ils n'ont pas berné Jésus, ni Jean-Baptiste. Et admettons-le, ils n'émiberneront pas les pouces de Christ non plus. Examinons cette vraie forme d'humilité telle qu'on l'a vu en Jésus, le Fils premier-né de Dieu, alors qu'il parle dans Jean 5:19. Il dit, Jésus reprit donc la parole, et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils n'a émis peut rien faire de lui-même, il n'a émis fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement, ce qui veut dire de la même manière ou façon. Ainsi, Jésus disait aux gens qu'il fallait qu'ils voient une vision de ce que Dieu, son Père, accomplit. Alors il entrait dans cette vision pour Néhémie faire que ce qu'il a vu le Père accomplir d'abord, dans la vision. Maintenant, comme Jésus, William Branham l'a démontré dans son ministère. Il nous a raconté comment les visions lui faisaient voir une scène, et comment il devait s'assurer que tous les éléments de la vision seraient aussi dans la réalité. Comme quand il nous a raconté que le chapeau devait se trouver sur la chaise, que la femme devait s'asseoir sur certaines chaises, et que l'homme, dont le chapeau était posé sur la chaise, devait aussi être assis sur une certaine chaise. Il nous a raconté qu'il a attendu des heures pour que ce chapeau soit sur la chaise avant qu'il n'ait l'assurance que la vision était maintenant en train de se dérouler. Et puis bien sûr, l'imposition des mains sur la personne, il pouvait alors prononcer avec certitude l'ainsi dit le Seigneur pour la guérison. Nous voyons encore Jésus, dans Saint Jean 5:30, nous dire la même chose, quand il dit, je n'ai émis peut rien faire de moi-même, or, écoutez, n'être rien doit venir en premier, puis vient la vision, et après la vision, vient la puissance. Comme j'entends, entends quoi? La foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu, n'est-ce pas? Par conséquent, il dit, comme j'entends, je juge, et qu'est-ce qu'il utilise comme modèle pour juger ce qu'il entend? La parole de Dieu. Jean nous a dit d'éprouver chaque esprit pour voir s'il vient de Dieu, et nous avons reçu l'ordre d'éprouver toutes choses par la parole de Dieu. Voilà votre modèle pour juger. Comme j'entends, je juge, et puis, il nous dit comment il sait que son jugement est juste. Car il dit, et mon jugement est juste. Mon jugement est correct, parce que je n'ai mis, cherche pas ma propre volonté. Parce que je suis totalement neutre. Je suis mort à moi-même. Je n'ai mis, cherche pas ma volonté donc. Je n'ai pas d'intérêt dans le jeu. Je n'ai pas d'intérêt dans le résultat. Qu'importe ce que Dieu veut faire, je suis totalement ouvert au résultat, qui est selon sa volonté, et non pas selon le résultat que j'espère. Et c'est exactement ce qu'il dit, quand il dit, parce que je n'ai mis, cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père, qui m'a envoyé. Dans ce verset, nous découvrons pourquoi le Fils de Dieu Néhémie pouvait rien faire de lui-même, car il nous dit qu'il Néhémie cherchait pas sa volonté mais la volonté du Père qu'il a envoyé. Et ainsi, si seulement, côté volonté, on pouvait lâcher prise et qu'on en arrivait à connaître la volonté du Père, et qu'on apprenait à faire sa volonté, on pourrait alors facilement s'enlever du chemin. En sorte que Dieu pourrait nous utiliser comme il a utilisé son Fils Jésus. Maintenant, la définition de ce mot volonté, c'est la faculté mentale par laquelle une personne choisit ou dessine délibérément une ligne de conduite, volition ou acte de volonté. Votre volonté, c'est ce que vous désirez, c'est votre objectif, c'est votre détermination, et c'est votre intention délibérée ou ce que vous souhaitez. Ainsi, vous voyez, si vous pouvez mourir à vous-même, c'est parce que vous êtes capable de mourir à vos ambitions, vous êtes capable de mourir à vos objectifs et à vos souhaits. Et quand vous arrivez à faire cela, vous êtes au point mort et votre volonté n'aimée vous appartient plus, mais vous êtes devenu complètement dépendant de Dieu pour bouger et pour vous guider dans n'importe quelle direction que prendra votre vie. Nous avons vu comment cela a marché dans la vie de William Branham comme dans la vie de personne d'autre, dans toute l'histoire de l'humanité à l'exception de Jésus-Christ. Il s'opéra plus des guérisons dans l'un de ses services que dans la vie entière de la plupart des hommes qui se prévalaient d'un ministère de guérison. En fait, un historien du réveil de la guérison disait que vous pouviez mettre William Branham d'un côté et tous les autres ministres de la guérison de l'autre. Le ministère de William Branham l'emporterait sur eux tous. Et donc, nous devons nous demander, pourquoi cela? Et la réponse est terre simple. Parce que William Branham avait un don de Dieu, celui de s'enlever du chemin. Tout comme le Fils de Dieu, Jésus-Christ, avait le don de s'enlever du chemin. En fait, William Branham nous a enseigné que le véritable don qu'il a reçu de Dieu n'était pas la capacité à prier. Il a dit, le véritable don était d'être en mesure d'enlever William Branham du chemin, en sorte que Dieu puisse l'utiliser pour n'importe quel dessein pour lequel Dieu a choisi de l'utiliser. Il a dit, un don consiste à s'enlever du chemin pour que Dieu puisse entrer et utiliser votre corps. Dans le sermon, Dieu Esther, son propre interprète, 5 février 1964, frère Branham dit, 135 un don. Qu'est-ce que c'est Esther? Ce n'est-ce pas quelque chose que vous prenez pour couper et pour retourner? Non. Non. C'est-ce savoir vous enlever du chemin, afin que Dieu puisse vous utiliser. Un don. C'est-ce seulement vous enlever du chemin. Et alors c'est-ce Dieu qui utilise cela. Un don. C'est-ce savoir vous enlever du chemin. Et laisser Dieu faire ce que lui veut faire. Voyez. Frère Branham a dit dans son sermon, un paradoxe dîme 17 janvier 65 137 un don de foi. Ce n'est-ce pas quelque chose que vous prenez, et avec lequel vous faites quelque chose. Un don de foi consiste juste à vous enlever du chemin. Le don, c'est de vous enlever du chemin. Ainsi, le don de foi, c'est avoir la révélation que Dieu le fera. Et alors, si Dieu le fera, ce n'est pas vous qui faites, puis Dieu fait, mais bien au contraire, c'est Dieu qui fait premièrement, puis vous, vous entrez juste dans ce que Dieu a déjà fait, et observez la vision se déployer de la vision à la parole manifestée. C'est savoir comment se détendre de telle manière que Dieu puisse utiliser votre corps de la manière qu'il veut. Enlevez-vous simplement du chemin et observez. Je souhaiterais pouvoir mieux l'expliquer, mais il n'y a pas moyen de vous le faire comprendre. À moins que vous en êtes arrivé à ce niveau et l'avez vu se produire dans votre vie. La meilleure explication que je puisse vous donner, c'est comme changer de vitesse en voiture, de passer une vitesse. Vous voyez? Et tout comme le don que Dieu vous donne par son Saint-Esprit, ce n'est qu'un don pour savoir comment vous mettre de côté et le laisser parler. Vous voyez? Mettez-vous au point mort. Comme ça, si Dieu veut vous faire avancer, vos freins à main et mes le n'empêcheront pas et il pourra vous donner juste une petite poussée dans la bonne direction. Si une voiture est au point mort, vous pouvez la faire avancer ou reculer en la poussant. Et cela n'est mis, dépend pas de la voiture. Car la voiture est au point mort pour être poussée ou tirée dans n'importe quelle direction. Mais si on a mis le levier de vitesse en position de stationnement, alors la voiture n'est mis, peut ni avancer ni reculer. C'est pourquoi frère Branham nous a dit que le quintuple don est l'église. N'est-ce que la faculté de s'écarter du chemin en sorte que Dieu puisse utiliser le corps pour prêcher ou enseigner selon la mesure du don prédestiné en lui. Et dans son sermon, quelles sont les œuvres de Dieu? Psaume 4 avril 59 14 de frère Branham dit, or, le problème est de savoir comment vous abandonner. Et certaines personnes sont établies dans l'église. Certaines peuvent s'abandonner à la prédication. Certaines peuvent s'abandonner facilement à l'enseignement. Certaines peuvent s'abandonner à la prophétie. Certaines peuvent s'abandonner à d'autres dons. Ainsi, tous les dons Néhémie ne seront pas identiques. Il Néhémie l'était pas en ce temps-là. Paul dit qu'il Néhémie l'était pas. Mais tout homme est appelé et placé dans l'Église dans un but. Et si vous découvrez ce en quoi Dieu peut mieux utiliser une personne, et que cette personne s'abandonne pour cette position, il aura du succès. Écoutez, je n'ai pas beaucoup de succès comme pasteur, bien que j'essaye depuis 36 ans d'être un bon pasteur au mieux de ma connaissance. Mon tempérament Esther peut être trop cinglant, trop tranchant, trop critique, et cela a blessé des personnes en chemin. Mais quand je me suis abandonné au Saint-Esprit et suis allé outre-mer pour enseigner aux ministres cette merveilleuse révélation de Jésus-Christ, faisant l'œuvre d'un apôtre, le ministère a fleuri partout et on peut voir les fruits du ministère partout dans le monde, dans la vie des ministres qui ont pris cette révélation de Jésus-Christ, et qui sont entrés dans cette révélation et qui sont devenus des épîtres vivantes de Christ pour leur congrégation. Nous n'avons pas un très grand verger ici en Ohio, mais nous avons 122 adresses IP, qui diffusent nos services religieux en ligne en temps réel vers 56 villes dans 11 pays différents. Et ça, ce n'est que la diffusion en ligne en temps réel. Et là où les frères Néhémie peuvent pas suivre en ligne en temps réel, parce qu'ils Néhémie comprennent pas l'anglais, on a traduit les sermons sous forme écrite dans 11 langues. Et d'autres prennent ces sermons et les prêchent dans leur langue, en sorte que les croyants qui suivent les sermons en ligne en temps réel reçoivent le même message, de sorte que le ministère est répété et amplifié d'une manière dont je Néhémie m'y attendais pas. Ses frères voient le résultat dans leur pays respectif, et Esther c'est le fruit de l'apostolat. Cependant, les fruits de mon pastorat semblent être très minimaux, mais pas si différents d'autres apôtres tels que Jean et Paul dont les ministères ont parcouru le monde, mais qui, en tant que pasteurs, s'occupaient à peu près d'une douzaine de croyants à domicile. Mais, bien que le ministère mondial de frère Branham dépasse de loin son ministère local, cependant, on peut trouver les véritables fruits de son ministère partout dans le monde. Frère Neuville était le pasteur du petit troupeau local, et ses sermons étaient très pastoraux. Puis, frère Collins lui a succédé pendant 43 ans et ses sermons aussi étaient très pastoraux. Nous avons vu la même chose dans le ministère de frère Vell. Son ministère avait plus d'effet mondialement qu'à Saint-Paris. Mais lui aussi avait quelqu'un d'autre pour l'assister comme pasteur. Et Paul était assisté par Timothée comme pasteur. Comme son ministère, aussi l'a amené à voyager sous d'autres cieux. Et bien que beaucoup de personnes, autour du monde, acceptaient le ministère de Paul, cependant, localement, seulement 12 personnes pouvaient s'asseoir sous son ministère. Pourquoi? Se pourrait-il que ce soit parce que ses sermons étaient trop fougueux et cinglants? Mais je préfère dire qu'il n'y en avait que 12 qui étaient prêts, destinés à être là. Et bien que vous supportez ma prédication et mon enseignement rude et critique, cependant je Néhémie, pense pas que ce soit moi que vous écoutez et supportez, mais Esther celui qui m'a envoyé. Esther ce que frère Branham dit dans son sermon, Jésus-Christ Esther le même hier, aujourd'hui et éternellement je 26 avril 56 au 49. Ce n'Esther pas le prédicateur qui prêche. C'est Esther Dieu qui prêche au travers de lui. Ce n'Esther pas le prophète qui a la vision. C'est Esther Dieu qui parle au travers de lui. Je n'ai mis fait que ce que le Père me montre premièrement. Remarquez. Après il dit, ce n'est pas le prédicateur qui prêche. C'est Esther Dieu qui prêche au travers de lui. Ce n'est pas le prophète qui a la vision. C'est Esther Dieu qui parle au travers de lui. Remarquez. Qu'ensuite, Il va directement aux Écritures pour nous montrer l'exemple de Jésus-Christ lui-même. En citant les paroles de Jésus dans Jean 5:19, je n'ai mis « Fais rien excepté ce que le Père me montre de faire. » Si je n'ai mis « Faisait que l'œuvre d'un pasteur », je n'ai mis « Ferait aucun cas de ce qui se passe en dehors des murs de cette église et de ses croyants. » Mais ce n'est pas ce à quoi je fus appelé. En 1983, le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit d'écrire mes sermons mot pour mot et qu'un jour, ils seront lus partout dans le monde. Je n'ai mis comprenait pas ce qu'il voulait dire par là, mais j'ai fait ce qu'il m'avait dit de faire, et je n'avais aucune compréhension de la manière dont Dieu allait accomplir ce qu'il avait dit, parce que c'était bien avant que l'Internet n'ait mis soit disponible. Puis, en 1997, j'ai commencé à poster les enseignements doctrinaux sur l'Internet, parce que j'avais vu qu'il n'y avait rien sur l'Internet qui enseignait les doctrines de frère Branham. Après un an, environ, des frères du continent africain ont aussi commencé à demander mes sermons. Je n'avais pas les fonds pour les envoyer, alors j'ai pensé que je pourrais juste les poster sur l'Internet et les gens pourraient les avoir gratuitement. C'était il y a 20 ans, en 1997. Et depuis lors, Dieu a apporté ses sermons dans 11 langues et 189 pays. Plus de 1358 de mes sermons furent traduits dans 11 langues. Ainsi, ce que j'essaie de dire ici, c'est ce que frère Branham nous disait dans son sermon, « Quelles sont les œuvres de Dieu ?» Psaume 4 avril 59 au 14. Frère Branham dit, « Or, le problème est de savoir comment vous abandonner. Et certaines personnes sont établies dans l'église. Certaines peuvent s'abandonner à la prédication. Certaines peuvent s'abandonner facilement à l'enseignement. Certaines peuvent s'abandonner à la prophétie. Certaines peuvent s'abandonner à d'autres dons. Ainsi, tous les dons Néhémie ne seront pas identiques. Il Néhémie n'était pas en ce temps-là. Paul dit qu'il Néhémie l'était pas. Mais tout homme est appelé et placé dans l'église dans un but. Et si vous découvrez ce en quoi Dieu peut mieux utiliser la personne, et que cette personne s'abandonne pour cette position, il aura du succès. Et quand je me suis abandonné à faire l'œuvre d'un apôtre, Dieu a béni cela d'une façon telle que je n'aurais jamais pu faire cela seul. Mais c'est ce à quoi il m'a appelé, et c'est là où je suis le plus à l'aise. Ainsi, comme frère Branham le dit dans son sermon, l'influence Sam, 12 janvier 63-73, restez toujours humble et soyez petit à vos propres yeux. Peu importe ce que Dieu fait pour vous, voyez simplement combien vous pouvez devenir plus humble tout le temps. Plus Dieu vous bénit, continuez simplement à être plus humble tout le temps. Il pourra ainsi continuer à vous bénir. Mais lorsque vous en arrivez au point où vous pensez, je l'ai reçu, vous ne l'avez pas reçu, vous êtes sur le chemin de votre débâcle. C'est vrai. Voyez-vous? Vous perdez votre influence. Vous perdez la force de votre témoignage. Et dans l'âge de l'église de Pergame 7 décembre 6309, restez petit aux yeux de Dieu, restez petit à vos propres yeux, considérez tous les autres comme étant au-dessus de vous. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur à tous. E 310 qui pourrait être plus grand que Jésus-Christ qui s'estère saint et a lavé les pieds de ses disciples, il était devenu le valet qui lave les pieds. Le Dieu du ciel, le Créateur du ciel et de la terre, lavant les pieds sales des pécheurs, ont des pieds souillés par le fumier et d'autres choses, et par la poussière des routes sur lesquelles leurs vêtements avaient traîné, et lui les lavait. Le valet qui lave les pieds, voilà ce qu'il était. Et nous pensons que nous sommes quelque chose. Nous devons être un docteur, avoir un doctorat et ainsi de suite. Oh là là, ça, ce n'est pas Christ. Ce n'est pas cela qui manifeste l'aimable Jésus-Christ. Il était devenu le serviteur de tous. C'est vrai. Il nous a donné un exemple pour que nous fassions les uns aux autres ce qu'il nous a fait. Oh! C'est lui mon Seigneur. Ce qui le rend grand. C'est qu'il s'est fait petit. Vous voyez? C'est cela qui l'a rendu grand. Ensuite, ce n'est pas vous qui parlez, c'est lui. C'est ainsi que les dons de Dieu œuvrent dans le corps de Christ. Vous vous enlevez premièrement du chemin en sorte que le Saint-Esprit puisse agir dans votre corps, afin d'utiliser votre corps pour faire sa volonté. Dans son sermon, Néhémie t'appuie pas sur ton intelligence 65-0120. Frère Branham dit, 205 un don de Dieu. C'est un moyen que vous avez de vous enlever du chemin. Et les dons et les appels relèvent de la prédestination de Dieu. Les dons et les appels sont même sans repentir. Vous naissez avec. C'est un petit levier pour vous faire passer d'une vitesse à l'autre. Mais vous n'y pouvez pas appuyer sur l'accélérateur. Voyez? C'est un Dieu qui doit le manœuvrer. Vous devez vous enlever du chemin. Remarquez, c'est ce Dieu qui doit le manœuvrer. Et c'est ce qu'il a dit dans l'une des premières citations que nous avons lues, où il dit, ce n'est pas le prédicateur, c'est Dieu prêchant à travers lui. Ce n'est pas le prophète qui voit la vision, c'est Dieu parlant à travers lui. Frère Branham a dit que son pire ennemi, c'était lui-même. Et il a dit que Dieu lui a donné un don, celui de s'enlever du chemin en sorte que Dieu prenne la relève et utilise son corps pour la gloire de Dieu, et afin de venir en aide aux enfants de Dieu. Maintenant, je pense que nous pouvons tout convenir que Dieu avait donné à Jésus-Christ le plus grand de tous les dons, celui de s'enlever du chemin. Jésus a dit dans Jean 12h49, « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je les dis comme le Père me les a dites. Et il a aussi dit dans Jean 14h31, mais afin que le monde sache que j'aime le Père, et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Et encore dans Jean 15h10, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Il y a quelques semaines, je vous ai montré l'Écriture qui parlait du Fils de Dieu comme étant le grand serviteur de Dieu et qu'il était aveugle et sourd à tout sauf à la parole de Dieu. Nous trouvons dans Esaïe 42, 19. L'Écriture qui nous enseigne que le Fils de Dieu était aveugle à tout sauf à la parole de Dieu. Et il était sourd à tout sauf à Dieu. Esaïe 42, 19 qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle, comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? La traduction Rotterdam l'interprète ainsi. Qui est-ce aveugle, sinon mon serviteur, ou sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est-ce aveugle comme un ami intime est-ce aveugle, ou aveugle comme le serviteur de Yahvé? La Bible de Jérusalem dit, qui est-ce aussi aveugle que mon serviteur? Qui est-ce aussi sourd que le messager que j'envoie? En d'autres termes, on doit lire, qui, dans le monde entier, est-ce autant aveugle que mon serviteur? Qui est-ce conçu afin d'être mon messager de la vérité? Qui est-ce autant aveugle que celui qui m'est dévoué? Le serviteur du Seigneur? Ainsi, nous voyons ici que Jésus-Christ était complètement aveugle concernant tout ce qui était contraire à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu et au dessein de Dieu. Et comment vous y parvenez? En aimez-vous concentrant que sur lui. Quand je joue au football, Je tirais les tirs plein champ et les supporters adverses me jetaient des boules de neige ou des oranges pour essayer de me distraire. Alors j'ai appris de cette expérience à me concentrer uniquement sur le placement du ballon lorsque le joueur de champ envoyait le ballon derrière au quart arrière et celui-ci le plaçait pour que je tire. Dans le naturel, le golfeur apprend tellement à se focaliser sur le putt qu'il devient aveugle au public et sourd à tous les bruits qui, autrement, le distrairaient. Les meilleurs batteurs au baseball sont ceux qui sont tellement concentrés qu'ils peuvent vous dire combien de rotations la balle a effectuées dès l'instant où elle a quitté la main du lanceur jusqu'au moment où il balance sa batte pour la frapper. Maintenant, si cela peut se faire dans le naturel, combien plus ça devrait se faire dans le spirituel. Ésaïe 42, 19 qui Esther aveugle, tellement focalisé sur moi qu'il Esther défocalisé à toute autre chose si ce n'est Esther mon serviteur, ou sourd, tellement à mon écoute, qu'il fait la sourde oreille à toute autre chose et à toute autre personne, comme mon messager que j'ai envoyé, qui Esther aveugle comme celui qui Esther parfait, et aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tournez le regard vers Jésus. Mère 22 janvier 64 177 beaucoup de gens ont une mauvaise impression de ce que c'est Esther un don. Un don, ce n'est Esther pas quelque chose que Dieu vous donne pour sortir avec et dire, voici, j'irai là et je vais prendre ceci et je vais prendre cela et je ferai ceci. Ce n'est Esther pas ça. Les dons. C'est Esther ce que pensent beaucoup de gens. Mais ils ont une mauvaise impression. Un don de Dieu, c'est Esther juste savoir comment s'enlever du chemin, afin que Dieu puisse vous utiliser. Un don ce n'est Esther que ça. Voyez-vous? Aussi longtemps que vous êtes en vous-même. E 178 Jésus lui-même n'a-t-il pas dit, le Fils peut faire. Saint Jean 5,19. En vérité, je vous le dis, le fils Naomi peut rien faire de lui-même. Il passa près de cette piscine où il y avait tous ses infirmes, et il n'a guéri qu'un seul homme, qui souffrait de la prostate ou quelque chose comme ça, une maladie, chronique. Il a dit, le fils Naomi peut rien faire de lui-même, mais il fait ce qu'il va faire au Père. Ce n'est pas moi, a-t-il dit, qui fait les œuvres, c'est Esther mon Père qui habite en moi, c'est Esther lui qui fait les œuvres. Remarquez, Jésus a marché au milieu de 300 personnes, qui étaient assises là attendant que l'on agite l'eau. Mais il a cherché une seule personne, et donc, il s'est Esther concentré sur cette seule personne, qu'il avait vue dans la vision. Aveugle à toute autre personne, et sourd à tous les appels à l'aide, sauf à la voix de celui qu'il avait entendu dans la vision. Je pourrais peut-être le rendre plus simple pour que les mères le comprennent. Lorsque vous sortez faire les courses et que l'un de vos petits s'enfuit, que faites-vous? Vous commencez à le rechercher frénétiquement en filtrant de vos pensées l'image de tous les autres enfants sauf celle du vôtre. Dans son sermon, la voix pourvue par Dieu pour aujourd'hui 64-0206 frère Branham dit, 126 un don. Qu'est-ce que c'est Esther? Finalement? Ce n'est Esther pas prendre quelque chose, et s'en servir? Dire, j'ai un don de guérison. Je vais aller guérir celui-ci, guérir celui-là. Si je le pouvais, je le ferais certainement. Bon. Mais, un don? Vous interprétez mal à qui un don? Un don? C'est Esther simplement vous enlever du chemin et laisser le Saint-Esprit vous utiliser. Voyez? C'est Esther seul don. 127 C'est Esther sac Esther un ministre. Il n'est mis prêche pas ce qu'il veut prêcher. Il s'enlève simplement du chemin. C'est Esther un don. Et l'inspiration vient. Et il parle par l'inspiration du Saint-Esprit. C'est Esther pareil pour tout autre don. C'est Esther pourquoi vous pouvez être en train d'écouter les bandes durant la semaine, puis venir à l'église écouter le prédicateur dire la même chose que ce que vous avez écouté sur bande durant la semaine. Parce que ce n'est-ce pas le prédicateur? C'est-ce Dieu qui confirme ce que vous avez entendu sur bande? Et c'est-ce par la bouche de deux ou trois témoins qu'il a établi sa parole? Persévérer 64-0305-234 un don. C'est-ce s'enlever du chemin. Pour que Dieu puisse entrer. Vous voyez ce que lui, il montre. Ce que lui, il fait. Un don. Ce n'est-ce pas, j'ai la puissance pour faire ceci. J'ai la puissance. Votre puissance par un don. C'est-ce de vous enlever du chemin. Et le don que Dieu vous a donné, alors, il agit à travers ça, vous voyez, après que vous vous êtes enlevé du chemin. Voyez, Paul a écrit dans Éphésiens 2, « Un et vous qui l'a vivifié », ce qui signifie vous rendre vivant, vous rendre à la vie, vous qui étiez mort par vos offenses et par vos péchés. Et nous savons que le péché, c'est l'incrédulité. La Bible nous dit qu'ils ont péché parce qu'ils n'ont pas cru. Boire, fumer, jouer au jeu d'argent et courir après les femmes, Néhémie sont pas des péchés. Ils sont juste des attributs de l'incrédulité. Les gens font ces choses parce qu'ils n'aiment et croient pas à la parole de Dieu. S'ils croyaient la parole de Dieu, ils n'aiment et feraient pas ces choses. Remarquez ce que l'apôtre Paul dit dans Colossiens 2:13 « Vous qui étiez mort par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Quand vous êtes né de nouveau par la parole de Dieu, vous mourrez complètement au monde et aux soucis du monde, et vous devenez une nouvelle créature en Christ Jésus. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. » Allons dans nos Bibles pour voir comment l'apôtre Paul nous décrit ce processus. Romains 6, 1-23 Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous n'ayons soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts n'ayons meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Dis car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché n'ait règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. N'ait livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous? Parce que nous sommes, non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Néhémie, savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est à la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est à la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et quand nous sommes nés de nouveau, nous parlons un langage totalement différent. Nous, Néhémi, parlons pas comme le monde, parce que nous, Néhémi, pensons pas comme le monde. Paul dit dans Éphésiens 4:22-23, Sester en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. 23 Être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et si nous sommes nés de nouveau, cela signifie que nous sommes complètement morts à nous-mêmes et la manière dont nous traitons les autres est différente de la manière dont le monde traite les autres. Paul dit dans Colossiens 3:9-10 montez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Remarquez, que l'homme nouveau est renouvelé, par la connaissance de celui qui l'a créé. Et plus nous le connaissons, plus nous amenons notre moi et notre volonté sous le contrôle de sa volonté pour acquérir sa gloire, sa doxa. 2 Corinthiens 5:14-16 Car l'amour de Christ nous presse. Cela signifie que l'amour de Christ est l'élément qui vous motive, qui vous contraint et qui vous entrave de faire ce que vous avez envie de faire, parce que nous estimons que, si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. En d'autres termes, n'eût été Christ, je serais mort, et il n'y aurait pas d'espérance pour moi, mais comme il est mort pour moi, alors je lui dois ma vie et mon être, et ma pensée même, mon âme et mon cœur. Et parce qu'il m'a aimé le premier, et je peux l'aimer en retour. Et qu'il est mort, pour tous, afin que ceux qui vivent n'y vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux, c'est pourquoi nous n'y vivons plus pour nous-mêmes. En fait, il est mort pour nous sauver de nous-mêmes. Ainsi, dès maintenant, nous n'y connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous n'y le connaissons plus de cette manière. Alors, comment connaissons-nous Christ? Par son esprit qui vit en nous. 17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 18 Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Maintenant, qu'est-ce que ce ministère de la réconciliation? C'est la doctrine de Christ, d'enseigner aux autres la révélation de Jésus-Christ afin qu'ils puissent aussi recevoir son esprit, les réconciliant ainsi avec Dieu par Christ. Maintenant, au verset suivant, Paul explique comment Dieu a donné à Jésus le ministère de la réconciliation, et comment nous recevons aussi ce même ministère de réconciliation. Il dit, 19 car, ce qui explique que, Parce que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Par conséquent, si Jésus a mis en nous la parole de la réconciliation, alors cette parole doit être en nous, comme elle était en Christ. N'est-ce pas? Puis, Paul fait une autre remarque ici que j'ai compris pour la première fois seulement hier soir, et c'est pour réconcilier, il ne doit pas se concentrer sur le péché mais sur la révélation des fils. Paul dit, en imputant point aux hommes leurs offenses. C'est à peine que je l'ai compris et jamais avoir été un peu pris de court. Alors, il faut que je le recommence. Comment entrons-nous dans le ministère de la réconciliation? Premièrement, nous devons en arriver au point où nous ne nous concentrons pas sur les fautes ou les erreurs des gens, mais nous nous concentrons uniquement sur Christ, pas sur les péchés de la personne, puis en présentant aux gens Christ, la croix, et la révélation de Jésus-Christ, comme le fils premier-né dans une grande famille, de frères. Ainsi, s'ils y sont prédestinés, ils laisseront derrière eux l'ancienne création et deviendront de nouvelles créatures en Christ. Vingt, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs, de représentants, pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ainsi, vous voyez, quand nous sommes disposés à nous mettre de côté et à mourir à nous-mêmes, Dieu est plus que disposé à entrer et à vivre en nous. Maintenant, si Dieu entre et vit sa vie à travers votre corps mortel, alors ce n'est plus vous qui vivez mais c'est Christ qui vit en vous. Alors, vous Néhémie pouvez pas plus mourir que Dieu Néhémie peut mourir. Alors vous avez une grande assurance de vivre éternellement avec lui et avec ceux qui sont en Christ. Colossiens 2:12. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu. Maintenant, ce mot puissance est le mot grec énergeia qui parle de l'énergie de Dieu œuvrant en vous. Par conséquent, il dit, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui, par la révélation de l'énergie de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie, ce qui signifie vivifié avec lui, en vous faisant grâce pour toutes vos offenses, et vous voyez le bénéfice que nous tirons de mourir à nous-mêmes. 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Alors tout votre péché, toute votre incrédulité, chaque mauvais acte que vous avez posé et que vous poserez sont cloués sur sa croix et sont ensevelis sous le sang de l'agneau. 1 Corinthiens 15, 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Ainsi, c'est seulement à travers Christ que nous pouvons être rendus vivants. On nous dit ici que tous ceux qui vivent par Adam doivent aussi mourir. En d'autres termes, par la simple reproduction de la chair et du sang, puisque nous sommes nés d'après la chair, nous devrons aussi mourir. Mais par Christ, nous sommes tout rendus vivants, ce qui signifie que ce n'est que par Christ qu'il est possible de vivre éternellement. Dieu est la seule personne à être éternelle. Par conséquent, pour que nous devenions des êtres éternels, il est essentiel que la vie de Dieu entre en nous et prenne le contrôle de notre être mortel, nous apportant ainsi l'immortalité. Galates 2:19-21. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié. La version du roi Jacques dit, je suis crucifié. Au temps présent. Note du trad. avec Christ? Si je suis, c'est-à-dire au temps présent, alors je suis crucifié avec Christ 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et si je vis, ce n'est-à-dire plus moi qui vis. Maintenant, c'est-à-dire Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi, la révélation au Fils de Dieu. La Bible du roi Jacques dit, la foi du Fils de Dieu. Note du traducteur, pas ma foi dans le haut Fils de Dieu, mais la foi du Fils de Dieu, sa foi qu'il avait en Dieu. Maintenant, je vis par la même foi qui m'a aimé et qui s'était livré lui-même pour moi. Je n'ai aimé rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est-il donc mort en vain. Dieu doit faire quelque chose avec vous avant qu'il n'ait mis mettre son Saint-Esprit en vous. Et si maintenant, nous vivons par la même foi que Jésus, alors ce n'est-il pas ce que vous pouvez faire ni ce que vous n'avez mis pouvez pas faire, mais c'est-il plutôt ce qu'il a déjà fait pour vous. Alors, vous apprenez à vous reposer dans sa promesse pour vous. Et ce repos vous détend tellement en lui. Et admettons-le, comment pouvez-vous vous reposer si vous n'avez mis, croyez pas dans sa promesse. Ainsi, comme vous avez confiance en sa parole, vous apprenez à vous reposer et à vous détendre en elle, jusqu'à ce que vous mouriez totalement à votre vieille manière de penser, et que vous soyez mort à vous-même. Parce que si vous n'êtes pas disposé à mourir à vous-même, il n'y mettra jamais son esprit dans votre vase. La vie se nourrit de substances mortes, et la vie se nourrit de la mort. Chaque automne, la terre meurt complètement, la vie, dans la plante, descend dans la chambre d'ensevelissement, les racines de la plante. Mais en été, la vie ressort des racines et remonte dans la plante, et la vie recommence à se manifester. Et la résurrection d'entre les morts se nourrit de la mort de Christ, la résurrection de la vie. Et la seule manière pour que vous puissiez être vivant en Dieu, c'est-à-dire de mourir complètement à vous-même et à vos symptômes, et à tout ce qui est autour de vous, pour être vivant en Christ, la parole. Vous devez mourir, complètement à vous-même. Vous devez mourir complètement à vos symptômes. Vous devez mourir aux circonstances. Vous devez mourir à toute chose pour être vivant en Christ. Dans son sermon, vous devez naître de nouveau dîme 31 décembre 61 M. E. 108 William Branham dit, si vous êtes né de Dieu, vous êtes lavé dans les eaux de la parole. Vous êtes séparé des choses du monde et vous croyez Dieu. Vous êtes mort à vos propres pensées, mort à vos propres idées, mort à toute chose autre que la parole de Dieu. Elle vit en vous, faisant son œuvre à travers vous, démontrant que c'est-à-dire la parole de Dieu. Vous dites, je suis mort au monde. Je suis mort au monde, frère Branham. Et vous rejetez la parole de Dieu? Et dans le sermon, Les investissements SEM 3 août 63 BE 241 il dit, n'utilisant pas notre propre pensée, mais laissant juste sa pensée, nous sommes prisonniers comme Paul, comme Moïse. Peu importe ce que quelqu'un d'autre dit, vous êtes prisonniers de cette parole. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui conduit, il vous défend d'aller à des endroits, il vous défend de venir ici, il ne vous envoie là où vous ne voudriez pas aller. Il vous empêche d'aller là où vous voudriez aller. Aviez-vous besoin d'une police d'assurance? Voulez-vous investir? Dans son sermon, abandonnant tout mar 23 janvier 62 E 76 frère Branham dit, Jésus a dit, ou plutôt les Écritures disent, celui qui aime le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est-il même pas en lui. C'est-il vrai? Il faut tout abandonner. Là, quand vous êtes disposé à tout abandonner pour le suivre, alors, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, vous pouvez demander ce que vous voulez et cela vous sera accordé. mais vous n'aimez le pouvez pas, sachant que ces choses sont fausses. Vous savez qu'elles sont fausses. E78 La Bible Esther contre ces choses, les jeux de cartes, fumer la cigarette, boire, porter des vêtements immoraux, et puis professer être chrétien. Si cet esprit-là qui Esther en vous Néhémie condamne pas cela, alors il y a quelque chose qui Néhémie va pas avec l'esprit qui Esther en vous. Car le Dieu qui a écrit la parole Esther la parole. Et si la parole Esther en vous, elle vous condamnera. Elle doit le faire. Et si elle Néhémie le fait pas, vous êtes séduit. Comment le Saint-Esprit peut-il écrire quelque chose? Et vous? Vous faites volte-face. Vous faites le contraire et vous dites que c'est Esther le Saint-Esprit qui vous conduit. Vous n'aimez le pouvez pas. E80 Vous devez abandonner vos propres idées. Vous devez vous conformer à sa parole. Jamais le Saint-Esprit Néhémie reniera une parole qu'il a déjà prononcée, et la Bible a été écrite par le Saint-Esprit. C'est Esther ce que dit la Bible. Et si les paroles de la Bible sont Dieu, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. E81 Maintenant, la parole a été faite esprit habitant en nous, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde, à la consommation. Maintenant, si le même Dieu qui a écrit la Bible Esther en vous, vous Néhémie vous appartenez plus. Vous êtes mort aux choses du monde. Vous êtes mort à vos propres pensées. Et la pensée qu'il a pensée, qui était en Christ Esther en vous. Alors là, vous abandonnez tout pour le suivre. Pas vos propres pensées, mais ce que lui dit. Pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Alors, vous commencez à vous aligner sur la parole de Dieu. Hébreux 10:19-26 Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire, de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car, si nous péchons volontairement, si nous sommes incrédules volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne m'y reste plus de sacrifice pour les péchés. Prions. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, octobre 2018. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.